Truelle et Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Truelle et Sac à dos vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Eh bien, nous sommes donc dans l'atelier chez Scald, mais cette fois, je suis avec Audrey. Et j'aimerais poser la question que je pose à tous mes invités dans cette émission d'Archéolab pour Truelle et Sac à dos, à savoir, Audrey, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît?
Eh bien, je m'appelle Audrey Lecorgne, j'ai un petit peu plusieurs casquettes. Je suis avant tout artisan luthier, donc je fabrique des instruments de musique. J'ai aussi une casquette tournée vers l'histoire, où on fait de la recherche en fait d'artefacts, d'iconographie, d'instruments dans le passé pour en recréer aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme casquette? Eh bien, j'ai aussi la casquette de directrice du pôle de recherche d'interprétation et d'archéologie expérimentale, donc qui mène des missions tous les ans sur la pratique et les instruments de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Voilà.
Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours? Comment t'en es arrivée à devenir justement artisan luthier?
Et bien, mon parcours, ça commence par la rencontre avec Julien. Je crois que c'est le gros point de départ. Qui du coup lui était déjà dans le métier de lutherie et dans la reconstitution d'instruments historiques. Moi j'ai eu gros coup de cœur en fait pour toutes ces passions, j'ai envie de dire, en fait, que ce soit le côté artisanal avec ce rapport au bois, jusqu'à la finalité qui est la musique, qui est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est très important dans ma vie. Et tout ce côté histoire, de recherche, un peu d'enquête pour une remontée un peu aux racines de comment les hommes vivaient avant nous, comment ils appréhendaient la musique, quelle place elle avait dans leur vie, un peu tout ça.
Et alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ton métier? Parce que comment tu te positionnes dans ce métier de... Alors, est-ce qu'on dit luthière?
Je sais pas.
On a le droit?
Non, je crois qu'on dit luthière, mais moi, ça me tique à l'oreille, en fait.
Ouais,
je crois que c'est...
Bizarre, ouais, c'est ça, c'est le...
Ouais, c'est
peut-être
une question d'attitude,
autrice,
mais...
C'est ça, le côté féminiser le mot à tout prix pour que la femme ait sa place.
Ouais.
Alors, toi, du coup, ouais, dans ce métier-là, comment ça se passe en termes d'expérience? Comment tu as pu faire ton chemin, ou en tout cas marquer, tu vois, ta trace par rapport aux instruments?
Ok, et ben déjà, Julien a pu me transmettre beaucoup de choses que lui avait déjà appris, qu'il avait déjà acquis en savoir. Ensuite, pour le côté artisan, il y a un tour d'Europe, en fait, à la rencontre de d'autres artisans du bois. Ça a été, pour mon cas, en tout cas, pas que des luthiers, aussi des ébénistes, aussi des menuisiers, des tourneurs... Voilà, beaucoup de gens qui gravitent autour de vraiment de la matière bois. Ensuite, pour tout le côté, on va dire, musicologie et archéologie, ça c'est vaste les deux, mais pour toutes ces choses-là, en fait, j'ai suivi du coup beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup de lectures, et après c'est vraiment la mise en pratique, hein, là où vraiment on est rentré... Enfin, je suis rentrée très vite dans le vif du sujet et avec une première étude sur le psaltérium en écu de puits verts, du coup en 2000, je ne sais plus. Je crois que c'est 2014, mais non, je crois que c'est plus vieux que ça en fait. Je pense à 2014, mais non, c'est plus vieux que ça encore. Là, il y a vraiment la mise en pratique avec aussi l'écriture d'un précis qui a permis aussi de poser à plat un petit peu toutes les questions. Et tout le protocole en fait pour arriver à l'élément final musical, mais voilà.
Et comment on est... Alors est-ce que c'est par rapport à ça, ou comment est venue l'idée de créer le PRIAE, justement, donc le pôle de recherche en soi?
Et ben en fait c'est un besoin qu'on a eu, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'il y avait quand même du coup beaucoup de spécialisation autour d'un objet ou d'un artefact, et que à nous tout seuls c'est difficile, on n'est pas des robots, donc on ne peut pas encaisser non plus tous les savoirs du monde. Et aussi, je trouve que c'est très intéressant quand on trouve un objet de mettre différentes personnes autour, un peu comme en satellite, parce que ben, il y a plein de versions possibles, autant qu'il y a d'humains aussi, mais surtout dans les spécialisations. Mais c'est important pour moi vraiment de mettre des gens différents autour d'un objet et des gens qui ont des spécialisations différentes, parce que chacun va pouvoir apporter sa spécificité et on aura un résultat qui, au final, sera beaucoup plus poussé et beaucoup plus pointu.
Et plus complet.
Et plus complet.
Ouais, pour l'instrument aussi, sur ce sur quoi vous travaillez. Quoi. Et alors, le prix aller, en quoi ça consiste concrètement ?
Eh ben, le prix aller, en fait, comme je le disais tout à l'heure, en fait, produit des missions tous les ans, donc autour d'instruments ou d'iconographie voilà, liées à la musique et à la pratique musicale. Donc, le but étant de pouvoir comprendre comment... la musique était jouée, quelle était sa fonction, comment l'instrument était fabriqué. En fait, c'est d'essayer, en tout cas, tenter de répondre à toutes ces questions et de proposer des réponses à ça.
Et toi, en termes de temps que tu consacres à ça, en fait, ça fait partie aussi intégrante du travail que tu fais aussi pour l'atelier, en fait, en tant qu'artisan. C'est-à-dire que tu gères véritablement les contacts, les déplacements. Est-ce que ça, en fait, est-ce que toi, le travail autour du PRIAE, enfin, comment tu as pu organiser ton temps de travail, on va dire, pour que ça puisse se mettre en place, en plus de ce que tu avais, en fait, j'ai envie de dire, en tant qu'artisan, quoi, où là, il faut que tu conçoives.
Bah, l'organisation, ouais, pour moi, c'est un énorme mot. Je suis pas forcément quelqu'un de très très organisé, même si par la force des choses, par le temps, je le deviens de plus en plus. Ouais, je crois qu'il y a vraiment aussi une grosse volonté et un gros travail bénévole hein, de la part de Julien et moi là-dessus, parce qu'on bosse vraiment 50-50 là-dessus. Vraiment, ouais, cette volonté de se dégager du temps en fait sur nos temps libres ou sur nos temps de travail pour ça, parce que pour nous ça fait partie intégrante et de notre métier et aussi de, j'ai envie de dire, notre épanouissement personnel, parce que c'est des choses qui nous nourrissent en fait, quoi. Et chaque mission, c'est des rencontres avec des nouvelles personnes, c'est des rencontres avec des objets de l'histoire aussi, donc c'est toujours très intéressant, parce qu'on va aller selon si on est sur de l'antique, du Moyen-Âge, on va aller piocher des connaissances dans des univers assez différents et à la fois qui se font écho. Donc voilà, en fait, c'est comment j'organisais mon temps, non, c'est vraiment comment j'ai libéré du temps. En fait, ça se fait naturellement, parce que c'est une volonté aussi et une envie, quoi.
Est-ce que la structure, elle est ouverte à tous ? Est-ce qu'on pourrait vous donner un coup de main d'une manière ou d'une autre ?
Complètement, ouais, on a toujours besoin de bras, donc c'est tout ça. Le monde est le bienvenu, ouais. Donc,
venez profiter du PRIAE et nous donner des coups de main. Et alors, en termes d'actions qui ont pu être menées jusqu'à présent par le PRIAE, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux ?
Eh bien, de quelle mission je pourrais vous parler ? J'ai envie de parler du projet Leia, parce que c'est un projet qui, pour moi, a été le plus abouti, c'est-à-dire qu'on a été vraiment de l'étude et de la recherche sur le terrain jusqu'à une finalité qui est la médiation et qui, pour ce coup-là, a été vraiment...
très développée.
Ouais, quoi. Assez développée. Ouais. Et c'est pas fini en plus encore, mais... Donc du coup, projet Leia, donc, ça consistait à aller donc, du coup, en Allemagne. Un chevalet de lyre en bronze a été retrouvé du coup à Cologne en France, mais cette pièce est actuellement gardée et conservée en Allemagne. Et donc chevalet de bronze, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose d'assez rare. On en a deux autres dans l'histoire, mais c'est quand même très très rare. Et aujourd'hui, en lutherie, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout, le bronze, en fait. En tout cas, pour une pièce telle qu'un chevalet, c'est pas du tout le cas. Donc pour nous, c'était intéressant aussi, sur la recherche acoustique, de se dire qu'est-ce que ça peut donner, en fait, le bronze sur une lyre. Donc il y avait cette curiosité et en même temps aussi... toute cette envie de aussi d'aller creuser et se dire peut-être que finalement c'était qu'un artefact, c'est déjà énorme, mais ça a été peut-être un élément qui a été mis lors du décès d'une personne et qui n'a pas forcément été usuel
utilisé
lors
pour,
de sa vie.
Pour l'instrument, quoi, que ça puisse être un côté ostentatoire de l'objet, quoi.
Ouais, alors aujourd'hui on peut pas vraiment répondre à cette question, en tout cas on sait que le bronze sur le lyre ça fonctionne et comment ça sonne et que c'est très intéressant et très chouette. Donc du coup, comment s'est déroulée cette mission un peu
Ouais.
Donc du coup, la première étape, ça a été le plus long et le plus invisible, mais c'est de constituer toute l'équipe de personnes qui nous accompagnent. Donc il y a eu Gaëlle Bourbous pour la numérisation 3D, donc ce qui nous permet d'avoir l'objet en 3D, mais aussi du coup une géométrie et une volumétrie au plus fidèle en fait de l'objet. On a eu Romain Viala, donc du coup qui est directeur du pôle innovation de l'ITEM au Mans. Lui, il est venu avec un vibromètre laser, donc un mot un peu comme
c'est ça,
mais
qu'est-ce que ça fait un vibromètre?
Et ben un vibromètre, ça sert à comprendre la vibration d'un objet en fait, comment il vibre en fait dans l'espace et du
et
coup quelle est
définir,
sa densité
ouais,
aussi
c'est
un
ça,
petit
donc
peu.
Ça permet de définir ce que c'est comme matière en fait, si c'est plutôt du bois ou du bronze, on va le savoir
Ouais.
à sa vibration quoi.
Ouais, bah là on savait déjà que du coup c'était
Oui,
du bronze, mais on
ouais.
sait que le bronze du coup c'est un alliage de cuivre et d'étain, il peut aussi y
Et là ça
avoir
permet de
d'autres
définir
matériaux, mais...
l'alliage de combien il est,
Et
je
ben,
suppose.
à la vibrométrie elle tout seule, non. Par contre, la vibrométrie combinée à d'autres techniques qu'on a appliquées, comme le... J'ai plus le nom, là, le... Tu sais, avec un multimètre, c'est conduit, c'est... on a donc, du coup, pardon, avec un multimètre, on a pu mesurer sa conductimétrie. Donc ça aussi, c'est un indice. Et avec tous ces indices combinés, on peut arriver à avoir la composition du bronze. Donc ça, c'est assez intéressant dans ce cas-là, parce que ça permet de connaître et d'apprendre des choses sur une pièce sans la dégrader, quoi. Et ça, pour nous, c'est aussi un challenge et un défi qui était important, quoi, de pouvoir un peu... être dans ces...
Précurseur d'une technique aussi
Ouais, je
qui...
sais qu'on n'est pas les seuls non plus, mais c'est quand même une tendance qu'a l'archéologie aujourd'hui que de pouvoir découvrir de plus en plus de choses et de pouvoir conserver au mieux les pièces sans les dégrader. C'est
Sans
quelque
les
chose
détériorer.
d'important parce que c'est vrai que la technologie peut évoluer dans le temps et il y a peut-être des choses qu'on pourra encore apprendre. Et si les pièces ont été dégradées, ça peut fausser
Ah ouais.
les données.
Oui, on évoquait avec Julien en fait que si tu enlèves un morceau de la pièce, elle ne fait plus le même poids, la résonance ne va plus être la même. Ou, enfin voilà, quoi, c'est...
Ouais, exactement. Après, il y a un côté un peu pas spirituel aussi, mais il y a aussi ce côté de... je sais pas, il y a un
C'est
peu
l'objet,
une...
quoi. Ouais,
Ouais, je trouve
c'est...
qu'il y a aussi un non-respect quelque part aussi.
Ah bah, de se rattacher à cet objet-là. Et
Ouais.
alors, est-ce que, au cours des... Alors, en même temps, sur la photogrammétrie et sur ce que vous avez pu faire avec cet objet spécifique, vous aviez déjà fait un premier test, justement, avec la statuette de notre petit bonhomme à la lyre qui se promène pas mal. Est-ce que
Bien
tu
sûr,
peux
ouais.
nous en dire un petit peu aussi sur
Ben,
ce premier projet-là?
ouais, bien sûr. Et ben, du coup, notre cœur bat avant tout aussi pour la lyre dite gauloise. Donc, sur le buste du barde à la lyre qu'on a retrouvé à Saint-Symphorien à Pôles, était très importante parce que c'est une des pièces les plus remarquables en fait qui possède une lyre pour cette période-là.
Oui, en termes de représentation, ouais, c'est même une des enfin, seules.
C'est la seule hein, de ce format-là.
C'est
Les autres
ça, ouais.
vont être du coup sur des pièces de
Sur des
monnaie.
monnaies, voilà, ouais.
Et donc du coup pas du tout avec la même précision, ni taille, ni stylisation. Donc c'est vraiment une pièce très très importante. Et c'est vrai que de l'avoir numérisée, c'est important pour nous. Ouais. Ça nous permet vraiment une conservation, une étude au plus proche aussi.
Et de faire connaître aussi le travail que vous faites pour la reconnaissance de la lyre en tant qu'instrument, quoi.
Ouais, c'est
Enfin...
un très bon outil de médiation, on le voit, parce que du coup, là, on a fait les premières impressions 3D aussi de cette numérisation, et on est très, très fidèle de l'original, et c'est des pièces qui sont des très bons supports, hein. Nous, c'est vrai qu'on avait eu un moulage que nous avait prêté le SRA, et je les remercie encore.
Eh oui, les aléas d'être maman. Maman luthière à Quimper, voilà. Donc, je viens de me faire enlever Audrey sous mes yeux par une enfant. Oui, tout à fait. Voilà ce que c'est. Hein? Donc, on imagine la difficulté de lier le travail de la maman avec le travail d'atelier et de pouvoir mener tous ces projets à bien en termes d'organisation. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et alors, qu'est-ce qui te motive, toi, à porter justement toutes ces actions en parallèle de ce métier de lutherie que tu as choisi avec Julien?
Bon, il y a le côté aventure, il y a le côté, comme je disais tout à l'heure, en fait, de toujours de rencontrer, de s'immerger encore un peu plus dans l'histoire des instruments que l'on fabrique ensuite par la suite au quotidien. Et puis ouais, cette curiosité aussi de toujours en apprendre plus, quoi.
Et alors, est-ce que, enfin, comment est venue l'idée de reconstituer la lyre de Paul?
Ben ouais, j'ai du mal à répondre parce que c'est un peu une évidence en fait pour nous, mais comment elle est venue l'idée? Elle est venue très tôt en fait, hein, dès qu'on a découvert ce buste-là.
Vous l'avez découvert tous les deux en même temps?
Je ne sais plus, j'essaie de me souvenir, je ne sais plus en fait, ça
C'est
remonte
ça,
à loin là.
c'est ça, est-ce que
Ça
vous
remonte à
étiez
loin, ouais.
déjà installé comme
En fait, moi
luthier ou
j'ai eu
est-ce que
une
vous
super
travailliez
prof,
déjà?
j'ai une très bonne prof en CM2, CM1, j'ai des bêtises, CM1, qui m'a passionnée des Gaulois et du monde celte. Je me souviens qu'on avait fait des grands exposés et que sur les murs il y avait les artisans gaulois, donc le forgeron, le paysan aussi, parce qu'ils ont été pas mal innovants sur tout le côté paysan. Et il y avait toujours ces bardes, et ouais, dans mon esprit c'était un peu flou, mais c'est comme s'ils avaient toujours été là. Je sais que beaucoup d'artistes bretons parlent de bardes, etc. Mais il y a ouais, comme un brouillard, une sorte de mystère toujours. Et y a un côté un peu magique, enfin, en tout cas dans mon esprit d'enfant, parce que c'est vraiment quelque chose qui a baigné mon imaginaire en fait très tôt. Et c'est vrai que d'avoir rencontré Julien, qui fabriquait des lyres, etc., j'ai fait waouh, mais
C'est l'univers me parle.
ben ouais,
Il m'a
complètement.
envoyé
Là,
Julien.
il devenait concret en
C'est
fait.
ça, ouais.
Et c'est vrai que ça. Donc, du coup, cette envie, elle était. Je crois que c'est Julien, du coup, qui m'a fait découvrir le buste que je connaissais pas. Et du coup, quand je l'ai vu, je pense que, ouais, il y a eu cet écho qui s'est dit, ben en fait, il est là, le fameux barde dans le brouillard. Ça y est, ça se dissipe,
Ouais,
quoi.
on
Et
peut enfin.
du coup, il n'y a plus qu'à se mettre
Oui, c'est
sur
ça, il n'y a plus qu'à. Tout seul, il n'y a plus qu'à. Et alors, comment vous vous y êtes pris pour réaliser la lyre du barde?
Et bien là, il y a eu pas mal de travail en amont, donc tout un travail de recherche, parce que là, on voulait vraiment être au plus près de la reconstitution, enfin de ce que ça pouvait être à l'époque. Donc du coup, il y a eu tout le travail sur l'outillage, en fait, tout l'outillage bois, de pouvoir refaire une trousse à outils qui soit de l'âge du fer. Et ensuite, tout le travail sur quelle essence de bois était utilisée, donc tout le travail de palynologie pour comprendre ouais, quels étaient les arbres présents à l'époque, quel arbre était suffisamment imposant aussi pour fabriquer une lyre. Donc tout ce travail-là, les cordes, quel type de cordes ça pouvait être. Aussi la forme, la géométrie de l'instrument. Là, il y a comme une grosse part d'interprétation, là, je tiens aussi à le souligner. La stèle ne suffit pas pour dire et affirmer les lyres étaient telles qu'on les fait, Julien et moi. Non, les lyres qu'on fabrique, Julien et moi, c'est une lyre dite gauloise, inspirée de la stèle de Paul, mais je peux pas affirmer qu'elle était comme ça à l'époque. Je peux pas non plus affirmer qu'elles étaient toutes comme ça, parce qu'il y en avait sûrement plusieurs. On le voit sur les monnaies, on a fait un gros travail au niveau des monnaies aussi, et on a pu identifier que selon les régions, donc du coup les différents peuples qui habitaient la France en fait, qui n'était pas la France à l'époque, mais qui habitaient la Gaule en fait, avaient vraiment des stylisations très particulières. Et donc du coup on peut imaginer que les peuples avaient peut-être une lyre identifiable en fait
Ah oui, en fonction
les
de
uns
leur
les autres,
tribu.
quoi.
Ouais.
Ouais.
Et comment vous vous êtes partagé les tâches entre toi et Julien, justement, sur les recherches en fait, qui ont pu être menées je suppose qu'il y a du. Enfin...
Ouais. Ben, c'est un peu compliqué là de dire vraiment parce qu'on est un peu 50-50 et disons
On est en
que
fusion
il
totale.
y en a un qui. Ouais, non, c'est un peu difficile en fait parce qu'il y en a un qui va chercher dans un livre mais va surligner quelques trucs, va faire relire à l'autre et il y a tout ce partage de recherche en fait. Toute la partie forge, etc., là c'est plutôt le travail de Julien, ça c'est clair. La partie fabrication pure sur le bois, ça va plutôt être moi. Et au niveau des recherches, ouais, c'est peut-être un peu plus Julien, je crois, que moi, mais
En
on est à
iconographie,
deux, quoi.
t'as travaillé aussi sur l'icono,
Ouais,
aller
bien
à
sûr, ouais,
piocher
sur
des
les monnaies,
infos, ouais, c'est
etc.
ça?
Ouais.
Et
En fait, en gros, moi, je vais faire un peu le scanner, quoi. Je vais passer les planches de monnaie. Je vais, enfin, ouais, le travail s'est fait comme ça. Du coup, ça me remémore aussi en parlant, mais où j'ai fait tout ce travail de post-it
Dans les
dans les
ouvrages, quoi.
pavés,
Ouais,
ouais.
c'est ça, ouais.
Que Julien, du coup, après a repris et qu'on a retracé ensemble. En fait, là, ça a été un peu 50-50 aussi, sur l'ordinateur, de les redessiner pour du coup les mettre en comparaison
Oui, c'est
les
ça,
uns
pour
les
avoir
autres,
les
quoi.
images bien fixes, quoi, pour se dire est-ce qu'il y a des ressemblances ou pas, sous quelle forme, ou le style, le symbole, ce qu'on peut en
Complètement.
extraire, quoi.
Ouais, qu'est-ce qu'il y avait aussi autour comme élément? Parce que
Oui,
la
c'est
lyre est
ça.
jamais seule sur une monnaie, ouais.
Et est-ce que t'as un projet peut-être prévu en lien avec ça, de publication ou de faire découvrir justement tout ce travail de recherche qui a pu être fait?
Ouais, complètement, ouais. En plus, il y a eu une autre petite découverte sur une monnaie où là, un barde est représenté, donc on est assez content. Ça fait la deuxième... Du coup, la deuxième illustration, oui. De lire avec, accompagné du barde. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la stèle de peau, là, le barde est vraiment en position mortuaire. Donc, on a peu d'indications. En fait, il tient la lyre comme un attribut, mais il n'est pas en train d'en jouer. En tout cas, ça paraît difficile avec les pouces, mais non, c'est pas le cas. Il n'est pas en train d'en jouer. Là où sur la monnaie, il est clairement en train de...
Il joue quoi ?
Ouais, alors il est même pas en position de jeu exactement, en fait, parce qu'il y a une espèce de transe, en fait, il est en train de danser, mais en tout cas, il la tient à la main, et il y a pas mal d'éléments aussi autour qui sont très intéressants, et on est encore en train d'étudier et d'interpréter, de donner une possible interprétation, en tout cas, de cette représentation.
Ouais, de ce qu'il en fait, quoi. Enfin, en tout cas, ce qui est l'usage de l'instrument à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Et, alors, j'ai une dernière question, bien évidemment. Pour le papa, j'avais une question, et pour la maman, j'en ai une aussi. Est-ce qu'il est facile de concilier sa vie de maman avec les projets de médiation, enfin tous les projets que tu peux avoir amenés au quotidien? On l'a vu déjà tout à l'heure, hein, on a eu une petite incursion, ouais, c'est ça. Dites-nous tout.
Facile, non. Facile, non, mais très enrichissant. Et ouais, c'est passionnant en fait d'avoir ses enfants aussi avec soi et de leur faire partager ça, c'est clair.
Ouais, est-ce que comme Julien, tu imaginerais de transmettre aussi, toi, tes connaissances, ton expérience
Ouais.
En tout cas, c'est quelque chose peut-être que vous faites déjà, même sans doute.
Ouais, après, c'est vrai qu'on le fait pas de façon systématique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que il y a toujours des petites choses qui traînent à la maison ou sur l'ordinateur quand on est en train de travailler ou à l'atelier. Et c'est vrai qu'on va plutôt venir leur apporter de l'information quand eux l'auront demandé, en fait. Ouais, plutôt dans ce sens-là. C'est vrai que je me rappelle aussi très tôt, Laurec, très petit, quand on faisait justement balayer les monnaies à l'écran ou dans des livres, en deux secondes, il disait « Ah là, il y a une lyre, là, il y a une lyre », alors que des fois, c'est très stylisé, et je sais qu'ils nous avaient pas mal scotché. Mais bien sûr, s'ils ont des questions, etc., et s'ils s'intéressent, on alimentera ce feu.
Et ta journée de maman, alors, c'est à peu près quoi si tu en prends une journée type, on va dire, à peu près?
Une journée à peu près type, et ben ça commence
de maman luthière, bien sûr, hein. Je réutilise le mot luthière.
Ouais, ça commence assez tôt. Du coup, les enfants sont en instruction en famille aussi, donc ce qui fait que c'est du H24, on s'arrête vraiment jamais. Donc du coup, ouais, le matin, et ben c'est tranquille petit déjeuner tous ensemble. Julien se lève parfois un petit peu plus tôt là ces temps-ci parce qu'il travaille sur ses recueils de tablatures, parce qu'il y en a un nouveau qui sortira peut-être à Noël là. Il nous rejoint du coup pour manger un petit quelque chose avec nous. Ensuite, selon la charge de travail et selon comment se répartit les tâches, je prends le relais à l'atelier ou c'est lui qui continue un petit peu à l'atelier. Et on remange ensemble le midi. Puis l'après-midi, moi je vais à l'atelier. Ça c'est tous les jours. Et quand je suis à l'atelier, du coup, bah, les enfants sont là avec moi et ont leur petit espace et font des activités avec moi à l'atelier, voilà. Ouais.
Et par contre, le soir, c'est repos, quoi. Enfin, pas de retour à l'atelier, après les enfants couchés ou des choses comme ça.
Si, ça peut. Si, assez régulièrement parce qu'on a des délais. Et voilà, et puis bah, pour tenir la cadence, aussi, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire, même si les enfants sont sur leur petit bureau, bah, ils me sollicitent quand même régulièrement.
Donc, ils demandent peut-être plus de concentration et peut-être un peu moins dérangés, ou enfin, pas dérangés, mais
ouais.
Qu'ils soient moins sollicités, on va dire, par les
enfants.
Ouais,
que je puisse me mettre un petit peu dans une bulle et pouvoir travailler en pleine concentration, c'est important aussi, ouais.
Ouais, d'avoir ces moments-là, quoi.
Donc, du coup, ouais, ça peut arriver qu'on veille un peu tard.
C'est ça. Ça fait des semaines un peu chargées, parce que je suppose que les week-ends, tu les passes aussi avec le priaï sur la route, parfois, en conférence ou ailleurs.
Tout à fait.
Bon, eh ben, écoutez, mademoiselle, merci beaucoup de vous être prêtée au jeu d'Archéolab pour Radio Évasion. Donc, nous, on se retrouve tous les mercredis matins à 10h. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, je commence à y prendre goût aussi, mais pareil, je débute. Et donc, je remercie Audrey.
Merci
beaucoup.
À toi.
À bientôt.
À bientôt.
Pour ce nouvel épisode, Truelle et Sac à dos étaient à Querper, dans les Côtes-d'Armor, commune de 270 habitants, en pays sans choupline, à vous de choisir. Nous souhaitions évoquer avec vous le pôle de recherche et d'interprétation en archéologie expérimentale, le PRIAI. Avec Archéolab, nous avons contribué au lancement de l'association en 2015. Nous avons accompagné la rédaction des statuts et du projet pédagogique. Et avec quelques étudiants du Master en médiation du patrimoine et d'histoire d'Europe de Rennes 2, nous avons réfléchi au plan de communication, au site internet permettant de valoriser les recherches menées. Aujourd'hui, nous dirigeons les commissions de recherche pluridisciplinaires et internationales en lien avec nos activités et en fonction de nos emplois du temps surtout, ce qui n'est pas toujours simple. Le PRIAE se développe peu à peu. L'archéomusicologie est le cœur des études dirigées, comme Audrey a pu vous l'expliquer, avec le projet LEIA, Lyre Experience Innovative Acoustics. Mais la médiation en archéologie, la transmission des connaissances et la réalisation d'outils pédagogiques adaptés aux différents publics restent la préoccupation première. Dans une seconde partie, je donnerai la parole à Julien Cubiliès, dont nous citons le prénom plusieurs fois, et dont la passion pour la lutherie a entraîné toutes ses idées. Il nous parlera de son métier et toutes ses autres activités, jamais loin de la musique, de la lyre et de l'archéologie. Et parce qu'avec Truelle et Sac à dos, nous aimons vous transmettre des infos, préparez-vous pour l'exposition Celtique, avec un point d'interrogation, qui sera présentée au Champ Libre à Rennes à partir du 18 mars 2022. Une exposition pour interroger la construction ou la reconstruction d'une forme d'identité attachée au territoire breton. Quant à nous, avec Truelle et Sac à dos, eh bien, nous vous retrouvons mercredi à 10h sur Radio Évasion.